Voilà, bonjour à tous, chers frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, donc dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17. Nous allons parler de la foi et particulièrement sur la nourriture de la foi qu'est la parole de Dieu. Et ce texte nous dit dans Romains chapitre 10 et au verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi. J'ai pensé à partager quelques thèmes sur la foi, commençant par ce sujet, la nourriture de la foi. La foi, c'est sa nourriture, c'est la parole de Dieu. J'aimerais qu'on prie un instant le Seigneur pour que Dieu nous éclaire sur la foi, parce qu'on connaît beaucoup de choses avec notre tête sur la foi. Mais on a besoin que ça descende dans notre cœur, que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions saisir sa parole et en consommer toute la nourriture, l'ingérer. Et cela, c'est spirituel. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Seigneur, au travers de ce message, nous te prions que ta parole descende dans notre cœur et qu'elle puisse porter du fruit, afin que nous soyons véritablement des hommes et des femmes de foi. Voulons pas le saisir simplement avec l'intelligence ce matin, mais avec le cœur. Seigneur, nous recevons ta parole et nous voulons, Seigneur, la vivre pleinement dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Seigneur, qu'il fasse son œuvre dans nos cœurs. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole est essentielle. Pour notre foi, comme une plante a besoin d'eau pour sa croissance, notre âme a besoin de la parole de Dieu pour que la foi grandisse. La foi, c'est par la parole de Dieu qu'elle va être solidifiée. Alors, je vous pose la question ce matin, est-ce que vous voulez une foi solide ?
Amen.
Amen. Alors, avec quoi la nourrissez-vous ? Eh oui. S'il n'y a pas la parole de Dieu, la foi ne sera pas solide. Un jour, il y a un pasteur allemand qui a donné ce témoignage qui m'a beaucoup marqué. C'est un pasteur allemand qui témoignait ceci. Un jour, dans sa communauté, il y a un fermier qui vient le voir pour lui dire « Pasteur, priez pour moi parce que j'ai une grave maladie cardiovasculaire. » « Ah bon ?» lui dit le pasteur avant de prier. « Comment mangez-vous ? Quelle est votre alimentation ?» Et le fermier lui explique « Le matin, je mange du saucisson. Le midi, du jambon et le soir du pâté, et tous les jours. » Eh bien, le pasteur lui a dit, « Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement ?» Il lui a dit, « Commencez par changer de nourriture, et déjà ça va améliorer votre santé. Si nous mangeons n'importe comment, nous allons avoir les maladies qui vont avec. Si nous nourrissons notre foi n'importe comment, eh bien nous allons avoir les maladies non pas du foie, mais de la foi. De la foi. Parce que la foi va être faible, elle va être asthénique, elle va être fragilisée parce qu'elle est mal nourrie. Et quand la foi est malade, c'est l'incrédulité qui domine. Et après, la Bible parle, et c'est Paul qui le dit, que certains qui étaient des croyants, comme vous ce matin, qui venaient au culte, qui louaient le Seigneur, qui vivaient en Christ, il a dit que certains ont fait naufrage quant à la foi, parce qu'ils n'ont pas respecté ces conditions, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on ne peut pas vivre sur des acquis en disant « j'ai entendu la parole de Dieu depuis des années, et maintenant je vais vivre avec cela ». Non, j'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu, comme chaque matin, midi, soir, nous prenons un repas, parce que nous avons besoin pour le corps de nourriture, bien notre foi, elle a besoin de la saine parole de Dieu. La Bible, c'est Pierre qui dit que c'est un lait spirituel et pur, la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi je dis, avec quoi nourrissez-vous votre foi? Si ce n'est pas par la parole, elle sera faible, elle sera malade. Je voulais voir quelques exemples, donc dans Exode chapitre 14. Un homme qui nourrit sa foi de la parole de Dieu. Exode 14, verset 10. « Exode 14, verset 10. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place. » Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. On connaît bien ce récit dans ce contexte de la sortie d'Égypte du peuple. Moïse a été envoyé comme le libérateur. Il a eu beaucoup de mal à convaincre le peuple qui voulait rester en Égypte. Ils ont réussi à sortir. Dieu a fait grâce. Ils sont là devant la mer Rouge et il n'y a aucune issue. Ça nous est tous arrivé de se trouver dans des situations sans issue. Et puis le temps passe et rien n'arrange parce que le temps passe et en fait Pharaon a changé d'avis et il a dit je vais aller chercher les esclaves qui sont sortis, que j'ai laissés sortir et je vais les ramener dans mon pays. Donc la situation, on va dire, s'empire. Plus le temps passe, et là c'est une armée qui est en train de fondre sur le peuple, et ils ne peuvent pas s'échapper parce que la mer Rouge les bloque. Donc nous sommes des fois dans des situations comme une impasse. Mais je remarque que dans ces situations, il y a deux attitudes qui sont indiquées dans ce texte, qui sont pour nous des leçons parce que la parole de Dieu n'est pas écrite au hasard, elle est là pour nous enseigner. Les deux attitudes, c'est l'attitude de l'incrédulité ou du regret du passé. C'est l'attitude quand le peuple dit « Pourquoi nous as-tu fait venir ici ? On aurait préféré mourir en Égypte, maintenant on va mourir dans le désert. » C'est une attitude de doute. On ne s'attend pas à Dieu, on ne prie pas, et c'est l'incrédulité qui domine. Ou on a l'attitude de Moïse qui va contraster par rapport au peuple parce qu'il a nourri sa foi de la parole de Dieu. Et quand on a nourri notre foi de la parole de Dieu, il y a trois choses qui se dégagent. Premièrement, une vision de foi. Deuxièmement, des paroles de foi. Et troisièmement, une attitude de foi. Concernant la vision, voyez au verset 13. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » Regardez, c'est la vision de Moïse. Il voit déjà les choses qui ne sont pas encore, et ça c'est tout à fait biblique. Romains chapitre 4, verset 17 dit, « Abraham, notre père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » La nourriture de la foi, elle est là dans la parole. Si nous nourrissons notre foi de ces versets de la parole, eh bien, elle va grandir, elle va se développer, elle va mûrir, elle va être solide. C'est comme ça que Moïse voit les choses. Oui, le peuple a une vision, mais c'est la vision matérielle, c'est la vision terrestre. C'est-à-dire, ils voient avec leurs yeux, mais pas plus. Ils voient donc Pharaon, ils voient l'opposition, ils voient l'armée ennemie, ils voient les combattants qui viennent sur eux, mais ils ne voient pas les choses de Dieu. Et frères et sœurs, si notre vision est si limitée que nous ne voyons que les difficultés, mais que nous n'arrivons plus à voir la présence de Dieu ou nous attendre à Dieu dans ces moments d'impasse, c'est que notre foi, elle a manqué de nourriture, elle n'est pas nourrie de la parole de Dieu. Elle est nourrie de la télévision, elle est nourrie d'Internet, elle est nourrie de tout ce que le monde propose, mais ça l'affaiblit, ça la diminue. Mais si elle est bien nourrie, si elle est solide, alors, comme Moïse, nous commencerons à voir les possibilités. C'est vrai que Moïse était seul. Ceux qui ont la foi ne sont pas souvent encouragés par les autres, parce que l'incrédulité domine souvent. Peut-être vous êtes seul dans votre famille, vous êtes seul avec un conjoint converti, des enfants qui ne croient pas. Souvent, on est seul, mais la réalité, Elle demeure spirituelle, c'est que si nous avons la foi, si elle est nourrie de la parole de Dieu, nous allons commencer à voir des choses qui ne sont pas encore. Par la foi, nous allons nous y attendre dans notre cœur. Et les choses vont s'accomplir en leur temps. Dieu peut faire beaucoup plus avec une seule personne qui a la foi qu'avec des centaines de personnes qui sont remplies d'incrédulité. Ça, c'est un principe qu'on voit tout le temps dans la parole de Dieu. Dieu peut faire beaucoup plus avec vous si vous avez la foi qu'avec des centaines et des centaines qui doutent. Jésus l'a dit lui-même. Il a dit, il n'a pas pu faire à Nazareth beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité régnante parmi les habitants. Il n'y avait que peu de foi. Eh bien, il n'y a eu que peu de miracles et de bénédictions à cause de l'incrédulité. Donc, Dieu peut faire beaucoup plus. Est-ce que vous voulez nourrir votre foi de la parole de Dieu? Cette foi va grandir et vous allez être utile pour le Seigneur. Comme Moïse. Moïse voit, ce n'est pas encore là, mais il dit « Regardez ». Deuxième chose, Moïse donne des paroles de foi. Le peuple, lui, se voit déjà mort. Ça, c'est la parole du doute. Il n'y a plus d'espoir. Et peut-être quelqu'un ce matin, il y a une voix dans son esprit qui dit « Il n'y a plus d'espoir » parce que le verdict est tombé, parce que médicalement, ce n'est pas possible. Les paroles de doute viennent envahir notre esprit. Eh bien, ces paroles de doute, nous devons les réguler, les ôter de notre esprit parce qu'elles influencent notre vision. Alors, on ne voit que la mort. Ils disent ici, au verset 11, « Il y avait des tombeaux en Égypte, c'est la mort. Pourquoi nous fais-tu mourir dans le désert ? La mort. » Donc, la foi qui n'est pas nourrie, elle va douter, elle va voir la mort. Vous vous rappelez Élie, qui a été fortement découragé par les paroles de Jézabel. Pourtant, c'est un prophète de Dieu qui aime Dieu, qui croit en Dieu. Mais à un moment donné, c'est le doute qui domine, et c'est l'incrédulité, et il fuit, et il a peur, et surtout, il demande la mort. C'est souvent qu'on demande la mort, ou qu'on voit la mort, ou qu'on s'approche de la mort comme cela quand on s'éloigne de Dieu, quand on ne croit plus. Alors, les paroles de doute sont toujours plus nombreuses que les paroles de foi. Et ça, c'est vrai dans le monde. Si vous écoutez le monde autour de vous, au travail, dans votre quartier, dans votre environnement, les paroles d'incrédulité, les paroles de moquerie, les paroles de critique seront toujours plus nombreuses que les paroles de foi, les paroles de bénédiction, les paroles de grâce. Mais c'est nous, frères et sœurs, en tant que chrétiens, qui sommes porteurs de ce message d'amour. C'est à nous de le répandre autour de nous, par la foi. Alors Moïse réagit à l'inverse. Ça, c'est une leçon pour nous, au verset 14. Verset 14, Moïse réagit à l'inverse de ce que le peuple dit. Il dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Arrêtez de prononcer des paroles d'incrédulité, des paroles de doute. Cela vous détruira. Gardez le silence. Faites confiance à Dieu. Il combattra pour votre cause. Donc, nous devons inverser la vapeur entre le doute qui s'installe et qui domine, et puis un homme, une femme de foi qui se lève et dit non. Faisons confiance au Seigneur dans cette situation, il va intervenir. Et la foi de Moïse va être communicative. De même que l'incrédulité est communicative, la foi est communicative. Donc il nous faut vraiment être des hommes et des femmes de foi pour partager cette bonne espérance autour de nous. Alors quand le doute frappe à la porte de ton cœur, est-ce que tu as nourri ton cœur de la parole de Dieu ? Qui va être cette nourriture de la foi. Ça va être une ressource, ça va être nécessaire à ce moment-là. Est-ce que nous avons l'antivirus de la parole de Dieu? Quand il y a le virus du doute qui arrive, j'espère que vous avez bien votre antivirus sur votre ordinateur. Ça, on n'oublie pas ça, parce que sinon ça ne fonctionne plus. Mais est-ce que nous avons pensé à cet antivirus contre le doute? C'est la nourriture de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, ingérons la parole, méditons-la, ça va faire grandir notre foi. Le troisième point, c'est l'attitude de Moïse. C'est une attitude de foi. Alors que le doute règne parmi le peuple et le doute engendre toujours le doute et il y a beaucoup de crainte dans le peuple, eh bien, la foi va générer la confiance. Au verset 13, Moïse dit « Ne craignez pas, restez en place, soyez confiants, faites confiance à Dieu. » Alors comment peut-on faire confiance à Dieu quand tout va mal? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Eh bien, c'est par la foi, justement. C'est pour ça que la foi nous a été donnée. C'est parce que comme nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux, nous pouvons le croire avec notre cœur. Et ce que nous croyons, nous allons le voir s'accomplir. Si tu crois, tu verras. C'est par la foi. Si nous pouvons comprendre la nécessité de la foi et de la nourrir de la parole de Dieu. Moïse n'est pas d'une nature supérieure. Il est très faible. Lorsque Dieu l'appelle à aller délivrer le peuple, il dit « Non, Seigneur, j'ai la langue embarrassée, envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas capable. » Il ne se sent pas capable. Mais le travail de Dieu dans son cœur, la foi, va faire de lui cet homme utilisable par Dieu. Jésus nous l'enseigne dans le Nouveau Testament lorsqu'il dit, ça c'est un verset qui m'a beaucoup parlé, c'est Jean chapitre 15, verset 7, « Quand on passe par l'épreuve, il nous faut venir à, ces paroles-là. » Jean 15, 7 nous dit, « Si vous demandez quelque chose, si vous demeurez plutôt en moi, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire vous avez mangé la parole de Christ, vous vous êtes nourri de la parole de Christ, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Oui, mes frères et sœurs, il y a les deux « si ». Il y a deux « si » qui précèdent. À demander ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en Christ et si les paroles de Christ, on les a mangées, on a mangé la parole, on s'est nourri de la parole, la foi a été fortifiée. Alors, il y a l'étape suivante, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vous voyez que la vie chrétienne est constituée d'étapes importantes. On est là dans les moments d'épreuve. Mais si nous demeurons en Christ, si sa parole demeure en nous. Je vous donne un deuxième exemple et vous allez remarquer que c'est les mêmes principes qu'on retrouve toujours dans l'Écriture. C'est vrai pour Moïse, c'est vrai maintenant pour David dans 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Et je dirais c'est vrai pour nous ce matin, 1 Samuel 17, 23, parce que les mêmes principes sont valables spirituellement en tout temps. David va expérimenter la même chose que Moïse en son temps. Pareil avec un défi important. Là, il y a un géant Goliath qui menace le peuple. Mais premièrement, David a une vision différente, une vision de foi. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 23, comme Moïse, il a cette vision-là, Dieu va faire quelque chose. 17, 23, il était en train de parler avec eux. Lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Philistins prirent la fuite et furent remplis de peur. Ça, c'est l'incrédulité, c'est le doute qui génère la peur toujours. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il donnera sa fille et il libérera sa famille de tout impôt en Israël. Le peuple, quand il voit Goliath, il voit un géant puissant et il s'enfuit parce qu'il sait que la défaite va arriver. Ça, c'est la vision du doute, de l'incrédulité. C'est toujours une vision qui aboutira à la défaite. Par contre, un seul qui vient parmi le peuple, David, il voit le même géant, il entend le même discours. C'est un discours qui fait peur. Le géant est puissant, mais pourtant, il a une vision différente, c'est-à-dire que sa foi est nourrie de la parole de Dieu. Et lorsqu'il voit le géant, il voit que Dieu est plus grand que le géant qu'il a devant lui. C'est par la foi. Avec ses yeux, il voit bien que ce n'est pas possible, mais avec les yeux de la foi, il voit Dieu et sa grâce. Goliath, c'est vrai, c'est un homme de guerre. Il est bien armé, il est habitué au combat, il est beaucoup plus fort que nous. C'était un géant. David n'est qu'un jeune berger. À vue humaine, on peut dire qu'il n'y a aucune chance. D'ailleurs, le roi Saül lui a dit à David, un peu plus loin, il lui dit, mais tu ne peux pas aller te battre contre ce géant. Ça, c'est la parole, les paroles du rationalisme, les paroles que tout le monde peut dire, ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Même le roi était contaminé et il ne croyait pas que c'était possible. Donc une vision de foi, ça s'entretient. Ça nous permet, comme David, de voir une possibilité, parce que David voit qu'on peut le battre. Par contre, le peuple le décourage, lui dit « ce n'est pas possible », ou son frère lui dira « tu es un orgueilleux, tu veux te mettre en avant ». Le peuple va décourager les hommes et les femmes de foi, et c'est pour ça qu'il faut persévérer, frères et sœurs. Si vous avez la foi, gardez-la, nourrissez-la de la parole de Dieu, vous ne serez pas beaucoup encouragés. David n'était pas encouragé par beaucoup de monde. Il avait beaucoup d'opposition, mais nous ne pouvons tenir que par la nourriture de la foi. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Si nous avons cette vision, gloire à Dieu. Si nous ne l'avons pas, nous pouvons prier pour recevoir cette vision de foi. Vous savez, le serviteur d'Élisée qui était croyant, il n'avait pas cette vision de foi. Mais à un moment donné, le prophète Élisée a prié pour lui en disant « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Il y avait là les chars de feu de l'armée de l'Éternel qui étaient là autour, mais par les yeux de la foi, on peut les voir. Sauf que nos yeux sont fermés, on ne les voit pas. Et c'est pour ça qu'il était dans la crainte, c'est pour ça qu'il était dans le découragement. Le prophète Élie avait ouvert ses yeux de la foi. On chante ce chant, « Ouvre les yeux de mon cœur, Père, je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. » C'est notre prière pour voir les choses de Dieu. Un petit peu plus loin, au verset 31, toujours dans 1 Samuel 17, je dis, David, comme Moïse, il a une vision. D'abord, c'est une vision de foi. Quelqu'un qui nourrit sa foi de la parole, il voit les choses de Dieu. Deuxièmement, il a des paroles de foi. Verset 31, après avoir entendu ces paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Ça, c'est des paroles de foi. Parce que David ne connaît rien au combat. Ici, il voit un roi qui est défaitiste, un peuple résigné. Il n'y a pas d'avenir, si ce n'est l'esclavage. Mais un jeune homme se lève, va renverser le cours des choses, parce qu'il a nourri son cœur de ses paroles de foi. Frères et sœurs, nous avons besoin d'expérimenter ces choses, de ne pas rester sur le bord, mais d'être entreprenant pour Dieu et d'avoir une vision et des paroles de foi, d'entrer dans ses plans vraiment. Parce que Dieu utilise des hommes faibles en apparence. Dieu n'a pas besoin des grands et des puissants. Regardez Saül, la Bible dit que Saül, il dépassait tout le monde d'une tête. Il était déjà plus grand, il était plus imposant. Mais Dieu n'a pas utilisé Saül avec sa force humaine. Il a utilisé David, cet humble berger qui n'était pas un homme de guerre. Alors n'oublions pas ces choses, c'est que Dieu confond les grands et les puissants par les choses simples et humbles du monde. Et c'est nous, frères et sœurs, nous sommes ces instruments que Dieu utilise. Alors on se considère peut-être très petit, très faible, mais Dieu va faire de grandes choses avec de petites choses, parce que Dieu est tout-puissant. Seul, David va ramener du courage. Seul, il va aller au-devant du géant. Et je le disais tout à l'heure, comme pour Moïse, n'attendez pas d'être beaucoup. Quelquefois, on se dit, oh, il faudrait être au moins tel nombre. Un seul peut faire la différence. Deux, trois, ça suffit. Déjà, on peut avancer pour le Seigneur. Et je termine pour cet exemple avec le verset 40. L'attitude de foi, comme pour Moïse, une vision, des paroles, et maintenant c'est l'attitude de foi dans le combat. Verset 40, « Il prit en main son bâton, puis choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gypsière de berger, dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. » Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David. Lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Et il ne vit en lui qu'un enfant roux a la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Pour David, il y a deux possibilités. Soit c'est la victoire, soit maintenant c'est la mort, parce qu'il ne peut rien faire face à ce géant. Donc, il est rempli de foi, mais en même temps, il s'attend à Dieu pour le miracle. Il faut que Dieu intervienne maintenant. Et avant ce genre de combat, il nous faut être rempli de foi et nous attendre à l'intervention de Dieu. Il y a quelque chose que David ne peut pas faire. Et il va être conduit par Dieu, même quand il va lancer sa fronde, c'est Dieu qui va conduire son bras pour que le caillou atteigne le front de ce géant. Donc il y a là vraiment une attente, une attitude de foi, et David ne craint pas cet homme, ne craint personne, parce que Dieu est avec lui. Il ne craint plus le roi, il ne craint pas les autres soldats, il ne craint pas le Philistin. Dieu est là. Il se prépare seul, j'ai remarqué ceci, ce qui nous montre qu'il y a des moments où il faut se mettre à part. Vous voyez, David, c'est comme s'il s'est désinfecté de tout l'enseignement du roi qui l'accablait, l'enseignement du roi qui lui disait « c'est pas possible ». Il est allé au torrent, se ressourcer dans la présence de Dieu, prendre ses cailloux, seul avec Dieu, se mettre à part pour Dieu. Jésus dit « entre dans ta chambre, mets-toi à part, prie le Seigneur qui est là dans le lieu secret, et le Seigneur qui te voit dans le secret te le rendra ». Il a pris ce temps à part pour nourrir sa foi de la parole de Dieu. Voilà. Et il est allé au-devant du géant rempli de foi. Je termine avec un dernier exemple. Dans 1 Roi 18, on retrouve les mêmes principes qui sont valables encore pour nous. La vision de foi, les paroles de foi et l'attitude de foi. 1 Roi 18, verset 41. Puis Élie dit à Acab, « Monte, manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de la pluie. » Acab monta, manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se pencha jusqu'à terre. Il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte, regardez du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarder et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit cette fois, « Retourne-y. » La septième fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer, et il est de la taille de la paume d'une main. » Et il dit, « Monte, dira Acab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir de nuages. Le vent souffla, et il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Jizréel. D'abord une vision de foi parce que le serviteur qui ne voit qu'un petit nuage, insignifiant, avec ça on ne peut rien faire, peut-être arroser quelques fleurs. Dieu utilise ces choses simples, les cinq pains, les deux poissons, l'huile de la veuve, des choses insignifiantes pour faire des miracles. Donc, le serviteur voit le petit nuage, mais Élie voit au travers du petit nuage déjà le signe annonciateur de la pluie qui arrive. Il y avait la sécheresse, il fallait que la pluie vienne. Élie priait, une attitude de foi, un cœur de foi, et maintenant il voit. Et quand Élie voit ce petit nuage, il a une vision et il voit la pluie. Ça, c'est déterminant quand on a nourri notre âme de la parole de Dieu. Alors on va voir les choses de Dieu. On commence à voir, à percevoir, c'est Dieu qui intervient. Tous les chrétiens disent qu'ils ont la foi en Dieu, et c'est très bien, on a la foi en Dieu, on croit en Dieu, on croit en Jésus. Mais la foi ne s'arrête pas à croire que Dieu existe. La foi va plus loin, la foi c'est entrer en contact avec le surnaturel, c'est croire que Dieu rend possible l'impossible, c'est vivre le miracle. La foi c'est cela, c'est aller plus loin. Alors, les paroles de foi, dans son cas, c'est au verset 44. Donc on a dit la vision, il voit au travers de ce petit nuage une grande bénédiction. Les paroles, à la fin du verset 44, il dit, va prévenir Acab, dis-lui à tel ton ça, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Or, il n'y a aucune goutte d'eau qui est encore tombée, mais il parle déjà de la pluie qui est là. Élie parle de la pluie comme si elle était là, parce que la foi rend présent ce qui est futur. Personne ne parle de pluie autour de lui. Il est le seul à avoir cette indication, mais parce qu'il a nourri son cœur de cette parole de foi. Et puis, cette attitude de foi, on la voit dans sa course victorieuse, quand il court même devant Acab, c'est-à-dire que Dieu lui a donné cette force qui vient d'en haut, pour courir. Et frères et sœurs, ce matin, nous sommes dans la course chrétienne. Paul dit dans Philippiens 3, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ah, je n'avance pas en traînant les pieds dans la vie chrétienne, mais je cours vers le but. Je cours dans les voies de Dieu. Je cours dans sa présence parce qu'il a une parole pour moi, parce qu'il a... Il vient réconforter nos cœurs parce qu'il veut nous bénir. Alors comment avançons-nous? Est-ce que nous sommes chargés? Est-ce que nous sommes fatigués? Alors Jésus dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Nourrissons nos cœurs de la parole de foi, la parole de Dieu. Et ainsi, la foi nous donne des ailes et nous pouvons courir. Et même la Bible dit, nous nous envolons comme les aigles, c'est par la foi. Alors on va prier quelques instants. Je termine avec cette question. Comment va votre foi? Comment va votre foi ce matin? Foi, F-O-I. De quoi la nourrissez-vous? Parce que cette foi qui est sous-alimentée, cette foi qui est nourrie des nouvelles qui ont cours dans le monde et tout ce qui se passe autour de vous, eh bien, elle va être affaiblie. Saisissez-le ce matin. La nourriture de la foi, c'est toujours la même. Elle n'a pas changé parce que notre cœur a les mêmes besoins. C'est la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu à cœur. Nourrissons-nous-en. Un jour, le peuple, même la Bible dit qu'il a eu assez de la manne. La manne, c'est la nourriture de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est l'image de la parole. La manne venait tous les jours pour rassasier le peuple. Et le peuple disait, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Voilà comment on parlait de la parole de Dieu. On ne se nourrissait plus de la manne. Et quand on ne se nourrit plus de cette bonne parole, quand on la dénigre, eh bien notre foi diminue. Elle est comme asthénique, elle est affaiblie. Alors que Jésus dit, ayez foi en Dieu. Nourrissez-vous de cette parole-là. Et vous vivrez les choses de Dieu. Merci encore pour ta grâce, parce que tu veux faire de nous un peuple de foi, un peuple qui se nourrit de cette parole, qui communique la foi à notre âme, à notre cœur, et nous voulons l'entretenir chaque jour, Seigneur. Je te prie pour celui ou celle qui a affaibli, peut-être celui qui a fait naufrage quant à la foi, qui s'est éloigné dans son cœur des choses de Dieu. Seigneur, nous te prions de faire grâce ce matin, afin d'être un peuple qui t'aime, un peuple qui vit dans l'amour et dans l'attente de Dieu, l'attente de ton intervention, du miracle divin, parce que Seigneur, tu veux le faire au milieu de nous. Oh, nous avons confiance en toi et nous croyons dans tes promesses. Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on termine avec un chant qui nous parle de la foi, justement, qui dit « Je crois en Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. » Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Vous voulez qu'on chante ce cantique? En exprimant notre foi, en disant « Oui Seigneur, je crois, je me nourris de ta parole et je veux chanter avec foi maintenant. » Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu.